Bâle, Copenhague, Kiruna, Stockholm.
Abham guzre, dunya guzri.
Hyderabad, Istanbul, Mumbai, Sofia, Téhéran, Budapest.
Et sans cesse, les voyages recommencent pour partir vers de nouveaux horizons.
Vienne, Lausanne.
Fred.
Julie. Julie.
Fred.
Fred et Julie.
Un week-end en Eurasie. Dimanche dernier, nous étions déjà à Téhéran. Aujourd'hui, on continue d'explorer l'Iran d'aujourd'hui, ou plutôt celle de hier, ou de ce printemps. Nous sommes en avril 1999 et les étudiants ne sont pas encore sortis en masse dans les rues crier leur colère. Pourtant, les Iraniens s'interrogent déjà. Les Iraniens se posent des questions politiques, des questions d'éthique. Et nous, nous sommes là pour les questionner, les interroger et enregistrer tous leurs précieux témoignages. Le soir, on se retrouve devant nos petits écouteurs et on se pose, nous, à notre tour, des questions. Qu'est-ce qu'on doit garder? Qu'est-ce qu'on doit censurer? Et qu'est-ce qu'on doit faire de tout cela?
Mais nous ne sommes pas les premiers à nous poser cette question. Il y a toute une génération de journalistes qui a dû se la poser. Et parmi eux, Marie-Laure Baggiolini et Serge Michel, journalistes suisses à Téhéran, qui de la même façon se retrouvent le soir devant leur petit écran d'ordinateur et se demandent « Mais que faire? Que faire? Est-ce qu'on peut tout dire ?» Mais avant de les retrouver, passons d'abord un moment avec Leïla, qui elle est une jeune journaliste iranienne qui a un tout autre point de vue sur son pays.
Fred et Julie sur Radio Suisse Romande, la première, durant tout l'été, c'est tous les samedis, tous les dimanches, de 16h à 17h.
Toujours en parlant de censure, vous entendez ce fameux tube qui, un jour, un été, a été à la mode, la Macarena, et qui, en Iran, est strictement interdit. Curieux, hein, parce que bon, on pourrait dire c'est un petit tube de rien du tout. Eh ben non, parce que toute la musique occidentale est interdite en Iran, et surtout s'il y a des voix de femmes.
Alors là, nous sommes dans un taxi, et un taxi, c'est l'endroit où on peut les trouver. Les chauffeurs achètent les cassettes au marché noir. C'est dans ce taxi qu'on est en compagnie de Leïla, qui elle va nous faire visiter et nous faire découvrir les moments de son passé en Iran.
Bon, je vais tenter de pouvoir entrer dans l'école dans laquelle j'étais. Et moi, je considérais cette école comme ma maison, en fait, tellement que j'adorais. C'était une école qui était dirigée par les bonnes sœurs et puis par les frères, quoi. C'était italienne. Voilà, j'ai passé quand même beaucoup d'années là-bas.
Mais donc, c'était une éducation de style catholique ou islamique?
Non, non, c'était une éducation islamique, c'est-à-dire que ça dépendait de la religion que tu avais. On ne nous laissait même pas entrer dans l'église sans la permission écrite des parents. C'était interdit. On suivait les cours normaux, hein, du pays, quoi.
Est-ce que tu as un souvenir particulier de cette école, un jour, qui t'a marqué?
Bon, ben, je pense que cette école, c'était tout au long de mes études dans cette école, c'était pour moi des années de souvenirs, quoi. Je les garde toujours. Moi, je me rappelle, j'avais une amie mi-italienne, mi-iranienne, qui voulait absolument me faire entrer dans l'église pour que je visite, parce que je rêvais toujours d'entrer dans une vraie église. Et je ne pouvais pas, parce que l'école ne permettait pas. Alors, j'ai pris la tête de mes parents, allez, écrivez-moi la permission, signez, je veux absolument rentrer et tout ça. J'ai mis un temps fou pour avoir l'acceptation de tout le monde. Et puis voilà, une fois que j'étais rentrée, j'étais complètement abrutie et je découvrais une espace complètement autre pour moi. C'était la première fois où je suis entrée dans une église dans ma vie.
Donc toute cette période où tu étais dans cette école, c'était avant la révolution?
Oui, oui, c'était avant. C'est-à-dire que j'étais à cette école-là quand la révolution est arrivée.
T'avais 10 ans quand la révolution?
Oui, je pense 12 ans, enfin 11 ans et demi, 12 ans, à peu près. On avait les études jusqu'à la collège et puis lycée dans cette école-là. Après la révolution, ils voulaient la fermer définitivement. Donc on a résisté, nous. Donc ils ont dit, d'accord, on va aller jusqu'à la fin de collège. Et après, ça sera arrêté dans cette école. Donc ils ont supprimé la partie lycée.
Est-ce que la nature des cours, le contenu, a beaucoup changé avant la révolution et après la révolution?
Ah oui, tout à fait. Déjà que le système essaye de te faire, pas de t'éduquer, mais de te former.
De
voilà.
Te former, ouais.
Ouais, voilà. Alors, après la révolution, au niveau des cours, surtout pour les premières années de maternelle, surtout dans des cours, par exemple, de la littérature persane, où ils te racontent des histoires pour que tu apprennes des mots, des phrases et tout ça. Ils essayent de te former quand même un peu dans ton esprit la façon dont il faut vivre. Par exemple, dans la famille, la femme toujours très silencieuse, tu vois, une femme de maison. Et c'est comme ça les histoires qui passent dans les livres. Tandis qu'avant, bon, il n'y avait pas de précision sur ça. Mais maintenant, tu vois toujours les femmes habillées correctement, enfin, entre guillemets, quoi. Très couvertes, toujours un foulard. Les enfants sont très polis, il n'y a absolument pas de gaffe, ni rien. Tout se passe très bien, merveille dans la famille. Tu vois, tout ça, ça te fait entrer des idées comme ça dans la tête, dès ton enfance, quoi. Et c'est ça qui est un peu peut-être gênant.
De quoi parlent ces enfants?
Alors, ils se demandent combien ils pèsent chacun. C'est un concours. J'ai 31 ans, si je ne me trompe pas, et je travaille dans la presse actuellement.
Comment c'est d'être journaliste ici?
Je trouve que je suis entrée quand même dans le domaine du journalisme dans un très bon moment, c'est-à-dire c'est une période quand même assez intéressante pour la presse iranienne parce que c'est une sorte de renaissance. C'est comme une mutation en fait ce qui est arrivé dans le monde du journalisme en Iran.
À quoi ça correspond ?
À l'époque, il n'y a pas longtemps, on ne pouvait pas vraiment dire tout ce qu'on avait sur le cœur. Et actuellement, on s'est quand même libéré par ce moyen, c'est-à-dire par la presse. Et on peut quand même parler de presque tout ce qu'on a envie. On peut critiquer beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on demandait de plus ?
Et ça, c'est un changement qui date d'une année, deux ans ?
Depuis l'élection de Khatami. Enfin, ça, c'est mon analyse. Il y a un an et demi, à peu près. Moi, je n'étais pas là quand il a été élu. Mais apparemment, même avant qu'il sera élu, moi, j'ai entendu qu'il y avait quand même déjà des changements. Mais puisque je n'étais pas là, je ne peux pas dire.
Moi, j'ai envie de reprendre le fil en disant, ben, tu es allé à Paris ? Combien d'années ? Première question. Et puis ensuite, quand tu es rentré, il y a eu l'élection, donc l'opposition qui est venue au gouvernement. Quels sont les changements que tu as vus ?
Je suis partie en France pour faire mes études en art. Et j'y suis restée presque 9 ans et demi. Tous les étés, moi, je rentrais en Iran pour passer mes vacances. Je restais à peu près 2 mois, enfin, ça dépendait. À mon retour en Iran, bon, c'est vrai que j'étais pas vraiment choquée, enfin... C'est parce que je suivais quand même tout ce qui se passait en Iran, même quand j'étais en France. Donc j'étais quand même un peu attachée à tous les mouvements politiques, sociaux et tout. Mais c'est vrai qu'après l'élection de Khatami, à mes yeux, c'était une renaissance de tous les points de vue. Une renaissance culturelle, sociale, politique, surtout politique, je dirais même. Mais je te corrige, tu m'as dit que c'était l'arrivée d'opposition au pouvoir. Mais ce n'est pas ça, parce qu'en fait, Khatami, c'est quand même un religieux. Il est d'accord avec le régime, il est d'accord avec les bases du régime, donc il n'est pas vraiment opposition. Il a des idées différentes, c'est ça qu'il faut dire en fait. Il est libéral, il est très logique, il est très politique, je trouve. Et je pense qu'on avait besoin d'un ensemble pareil en fait, pour gouverner un tel pays. Je trouve que c'était un merveilleux choix.
Pourquoi tu as décidé de revenir en Iran après 9 ans passés en France ?
Parce que je sentais qu'il fallait que je vienne, parce que je suis attachée à mon pays et que je trouvais que c'était vraiment le moment où il fallait faire quelque chose. Pourquoi je suis partie ? Parce que je me sentais ne pas avoir une place ici. Je me sentais vraiment étrangère dans mon pays. Et c'est vrai qu'arrivant en France, je ne me sentais pas du tout étrangère. C'est ce que je disais toujours. Et les gens ne me comprenaient pas. Mais en fait, c'était ainsi. Moi, je sentais qu'en Iran, plus de place pour moi, ni pour... d'autres jeunes. J'avais envie de bouger, j'avais envie de penser librement, j'avais envie de parler et je ne pouvais pas. Je sentais que je ne pouvais pas. Et bon, j'étais quand même plus jeune, j'avais des idées un peu plus anarchiques peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, je demandais ça. C'est comme tous les jeunes à cet âge-là. Et quand j'étais partie, j'avais à peu près 21 ans, donc c'était vraiment l'âge du mouvement quoi, chez un jeune.
Voilà, là, on est dans la rue. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà depuis ici ?
Ici, c'est le mur qu'on voit, mais tout à l'heure, on voyait l'église de loin. Ça m'a fait revivre tout, quoi. Ah, maintenant, c'est un centre de... Tu sais, pour la préparation pour passer le concours, pour entrer à l'université. Donc, c'est toujours dans la même
éducation.
Ici, c'était l'entrée, donc on avait quelqu'un... Ah, oh, regarde. Ça a l'air en rendez sur ma sécurité. Voilà, c'est là aussi. ما یک دوچار یه داستان عجیبی شدیم
به اتاق اول سمت راست چون ایشون مدیر در جریان بذاریم
بله متشکرم ممنون مرسی On va voir si la directrice nous laisse entrer.
Donc il y a une grande cour, il y a du soleil et puis il y a
noir et avec un foulard vert.
Ouais.
Oui,
une centaine de filles assises par terre.
C'est un foulard cousu.
D'accord.
C'est pour la préparation de la fête de demain. Donc ils vont fêter ça. C'est un jour spécial aujourd'hui. En fait, ils font les cours, mais pas tout le temps, pas toute la journée. Bon, ils ont déjà lu, chanté des versets de Coran pour commencer, parce qu'on fait toujours ça pour n'importe quel discours ou de cérémonie. On commence toujours par ça. Est-ce qu'on peut retourner vers 2h30, 3h? Parce que ici maintenant c'est les cours, ils sont tous en train et après, tout de suite après, il y a la fête pour demain. Donc ils ne peuvent pas nous laisser entrer. Mais par contre, si on vient entre 2h30, 3h30, là on aura l'occasion de tout visiter, quoi, tranquille.
Je veux juste que tu nous expliques, ici c'est le secrétariat?
Oui, c'était toujours le secrétariat.
Ouais, et ouais. Ça ressemble à la même chose ou pas du tout?
Je pense que c'est à peu près pareil, hein. c'est comme un bon.
Sauf que le portrait de Roménie a remplacé les croix cataniques.
Oui, ou bien le portrait de chat, quoi, parce que les croix, ils n'exposaient pas les croix.
Ah non, quand même.
Bon, on va sortir parce qu'on gêne un peu.
Ouais.
C'est au fond de ce couloir-là, c'est dans le truc un peu rond, cette partie un peu ronde du couloir, c'est l'entrée de l'église.
Il y avait la statue et maintenant il y a un pot de fleurs, c'est ça?
Voilà.
La statue de la Vierge, donc. Donc voilà, là on ressort de l'école où tu as passé ta tendre enfance.
Oui.
On va essayer de voir si on peut revenir plus tard. Aujourd'hui donc c'est la préparation d'une fête pour demain?
C'est une des fêtes les plus importantes de l'islam. C'est le jour où Mahomet a désigné Ali en tant qu'imam, celui qui va procéder la voie de Mahomet. Donc on fête dans tous les pays musulmans, on fête ça et tout est férié, tout est fermé. quand je suis retournée en Iran, parce que j'ai vu que la personne qui est venue au pouvoir, c'est-à-dire Khatami, bon, il parlait sans arrêt des jeunes, il parlait des changements radicaux, il parlait des femmes. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis arrivée à le croire, parce que je ne le connaissais pas. Je l'entendais de loin, mais il a été tellement sincère dans ses discours, et il a été tellement souriant, et il souriait tellement joliment que je l'ai cru. Donc je me suis dit, ça y est, c'est le moment, je vais partir. Et voilà, ça fait à peu près un an et demi que je suis presque définitivement ici, en Iran, et je ne regrette pas.
Quand tu étais à Paris, qu'est-ce qui te manquait le plus, en fait, de cette ville, de Téhéran ?
C'était une sorte de nostalgie, c'est vrai. C'est-à-dire que j'avais envie de faire quelque chose, parce que je voyais quand même des problèmes qui existaient, des problèmes quand même assez graves, assez énormes, qui existaient dans mon pays, mais que je ne pouvais absolument rien faire. Je voyais les gens qui étaient en Iran et qui ne pouvaient absolument rien faire. Ce n'était pas quelque chose qui me manquait, mais c'était ça qui me gênait, en fait. Mais maintenant, je pense que c'est réglé, parce que je vois que s'il y a quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, il y a quand même des possibilités pour qu'il se présente, pour qu'il met le pas en avant en disant que j'ai envie de faire ça.
Tu dis que tu as envie de faire des choses pour ton pays. Donc, tu as envie d'écrire contre quoi ? Et pour qui ?
En fait, j'ai envie d'écrire, de faire tout ce que j'ai dans ma disponibilité pour arriver à une liberté quand même acceptable pour une jeune société comme l'Iran. Je dis jeune parce que presque 60% de la société iranienne sont des jeunes en dessous de 30 ans. Je cherche liberté qui convienne à ces jeunes-là. Puis je vais faire tout ce que je pourrais pour arriver à une justice acceptable aux yeux du monde entier, pas uniquement des critères de mon pays. Donc je ne suis pas contre quelqu'un, je suis juste contre les obstacles qui m'empêchent d'arriver à la liberté et puis à la justice.
Vous écoutez Fred et Julie, Radio Suisse Romande, La Première, et nous allons quitter Laïla, journaliste iranienne en Iran, pour retrouver deux personnes dont on vous a déjà beaucoup parlé, Serge Michel, Marie-Laure Badjolini, qui eux sont journalistes suisses en Iran.
Qu'est-ce que ça signifie d'être correspondant étranger en Iran par rapport à un autre pays ?
Ouais, c'est un pays qui n'a pas encore tout à fait l'habitude du journalisme comme on le pratique en Europe et ailleurs, et on est un peu pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que ici, on a des autorités qui ne tolèrent pas des articles comme ils pourraient être écrits en Suisse. Et en Suisse, on a des journaux, en Suisse ou en France, en Europe, on a des journaux qui exigent des articles un petit peu nerveux, avec des titres qui tapent. Et on a l'habitude en Suisse d'un petit peu, pas exagérer, mais disons
De vendre
des sujets. Il faut accrocher le lecteur parce que les journaux sont dans une guerre commerciale, parce que il faut les retenir à chaque page, il faut les accrocher à chaque attaque de papier, c'est-à-dire à chaque début d'article. Et ça, c'est des choses qui sont mal comprises ici, parce qu'ils ont l'habitude d'un journalisme peut-être plus respectueux, peut-être plus lent. Et ils n'ont pas ce problème d'attraper les lecteurs, parce que les lecteurs ici sont incroyablement avides de journaux. Ils en achètent 5 ou 6 par jour, et ils lisent tous les articles. Donc, c'est pas un problème de zap. Ils ont été privés de journaux pendant très longtemps, et maintenant qu'il y en a tout d'un coup qui sortent beaucoup. Un journal qui sort à Téhéran, qui n'a jamais existé avant, dont les journalistes ne sont pas connus, en 2 ou 3 mois, il se vend à 200 000 exemplaires. Alors, les journaux suisses qui se créent, qui font des immenses études de marché pour se lancer, qui ciblent leurs lecteurs avec de gros moyens publicitaires, etc., peuvent toujours rêver de ce genre de diffusion.
Combien de tirages en Suisse ?
Je sais pas, le temps, je crois que le temps, c'est 50 000, un peu plus. Et encore, il fallait les avoir, les 50 000, c'était pas donné d'avance. Et ici, 200 000 d'un coup, et s'ils peuvent pas monter plus haut, c'est des questions d'imprimerie. Ils ont pas le papier, ils ont pas les infrastructures, ils ont pas la distribution. Maintenant, il y a un nouveau journal qui s'est lancé, il vise 500 000... parce qu'ils ont pu trouver 3 imprimeries qui imprimeront simultanément le journal à 3 endroits de la ville.
Puis t'as des journaux qui ferment. Aujourd'hui, il y en a un qui s'est fermé. C'est le journal des femmes, qui s'appelle Zan, la femme. Vient de fermer aujourd'hui parce qu'ils ont dû écrire des articles qui n'ont pas plu.
Déjà, soulevons que dans un pays qui est réputé pour être hostile aux femmes, il y avait un quotidien de femmes, écrit par des femmes pour des femmes, mais avec de tellement bonnes informations que les hommes le lisaient aussi. Et ce journal a publié pour le Nouvel An persan, c'est-à-dire le 21 mars, un fax ou un extrait de fax de l'ancienne Shahbanu d'Iran, donc la femme du Shah, Faradiba, donc ancienne princesse d'Iran. Elle a envoyé un fax au journal en leur disant qu'elle souhaitait ses meilleurs voeux au peuple iranien et qu'elle leur souhaitait un développement glorieux pour les prochaines années. Et le simple fait d'avoir publié cette phrase dans le journal d'il y a quelques jours, ça a valu au journal de fermer. Il y a aussi une caricature qui a fait problème. Elle montrait, je crois, un grand ayatollah qui est le responsable de la justice, qui criait une phrase contre les journaux et qui tenait, pour crier sa phrase, un journal à l'envers, histoire de montrer qu'il ne sait pas lire. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu raide. Mais ici, il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas de droit de réponse. Les mesures qui sont prises contre les journaux qui exagèrent un petit peu, c'est fermeture directe. Alors, il y a plein de journaux qui ont déjà fermé. Ils rouvrent quelques mois plus tard sous un autre titre. Mais après, ils sont fermés de nouveau. Il leur faut trouver un nouveau titre. C'est pas évident. قلب عاشقم چشم راست پاییزه پس کی میاد کاشکی بارون کم بیاد چکه چکه نم نم بیاد قلب عاشقم چشم راست پاییزه پس کی میاد پاییزه پاییزه عشق من ریزه رفتش و یاد من نیست دل بر و یار من نیست افسوس یارم نیست یارم یاد من نیست این دلو نشکن نشکن این دلو نشکن نشکن این دلو نشکن نشکن دلمو نشکن نشکن این دلو نشکن نشکن این دلو نشکن نشکن این دلو نشکن نشکن این دل منو نشکن نشکن دل من دل دیوونه بی تو تنها
Alors ça, c'est la situation des journalistes ici, qui écrivent pour les journaux locaux. Vous, vous êtes journaliste pour la télévision et pour les quotidiens en Suisse ou en Europe. Quelle est votre position par rapport à tout ça? Est-ce que vous êtes libre d'écrire tout ce que vous voulez?
Moi, en télé, ça va pas mal pour l'instant, parce que c'est vrai que mon but, c'était aussi de dédiaboliser l'Iran, parce qu'en Occident, on n'en a qu'une vision, et on pense que c'est un État terroriste, ou à peu près, on connaît les meurtres d'intellectuels, on connaît certaines choses, mais du coup, on le généralise, et puis plein de gens dans notre entourage qui, quand on leur a dit qu'on partait en Iran, nous disaient « mais vous êtes complètement fous, partir dans un pays comme ça, et puis bon, situation de la femme, etc. » Puis ils pensaient que c'était un pays violent, un pays terroriste, et puis moi, j'ai pas du tout cette impression une fois sur place, et j'ai pas du tout envie de parler que des problèmes de l'Iran. Donc pour l'instant en télévision, c'est vrai que j'ai fait des choses qui sont peut-être un peu plus naïves, un peu plus carte postale, mais en même temps c'est aussi une autre réalité, c'est que la vie quotidienne se déroule et qu'il y a des gens comme nous qui sont là, qui arrivent à vivre. Alors c'est vrai que moi les femmes m'intéressent particulièrement, il y a les femmes traditionnelles qui sont hyper voilées avec tchador et il y a des femmes plus occidentalisées du nord de la ville de Téhéran, un peu plus bourgeoises et qui vivent avec un simple foulard sur la tête, mais à part ça elles passent. Elle me raconte des tas de choses. Bon, c'est sûr qu'il y a de l'autocensure, il y a des choses qu'elles ne diront jamais, des choses qu'elles ne peuvent pas se permettre de dire, et que si moi je diffuse, je vais certainement avoir quelques problèmes aussi.
La question c'était, est-ce que je suis libre d'écrire ce que je veux? Et à mon grand regret, je dois dire que non. C'est paradoxal parce qu'en même temps, les journaux ont toujours donné de mauvaises nouvelles sur l'Iran. Ont toujours montré un Iran fanatique, un Iran guerrier, un Iran intolérant. Et je sais que l'Iran était différent, donc je suis venu dans cette idée-là de montrer un Iran différent. Et cet Iran, vous l'avez vu vous-même, quoi. C'est des gens qui sont extrêmement chaleureux, c'est des gens qui parlent, c'est une société qui vit et qui se développe. Et donc, je suis venu dans l'idée quand même de donner quelques bonnes nouvelles sur l'Iran parce que je savais qu'elles existaient et que c'était pas mentir que de les donner. Mais en même temps, ça c'est la théorie et ça c'est les idées qu'on a avant d'arriver. Et quand on arrive, on s'aperçoit que les sujets qu'on peut quand même plus facilement placer dans les journaux, c'est des sujets qui montrent un peu les tensions en Iran actuellement entre des réformateurs qui font partie du régime mais qui sont en position très délicate aujourd'hui et puis des conservateurs qui ont le pouvoir depuis 20 ans et qui n'ont pas la moindre intention de le perdre. Donc il y a des tensions entre ces deux camps et le simple fait d'aller voir un mollah, donc un prêtre ici, et de lui demander ce qu'il pense, qu'il vous dise des choses un petit peu libres, il peut prononcer une phrase qui me ferait annuler mon visa, quoi. Il peut dire un truc contre le guide suprême, donc le successeur de l'ayatollah Khomeini. Si cette phrase paraît dans un journal suisse, lui aura des problèmes, il peut aller en prison, et moi je peux dire au revoir à mon visa. Maintenant j'ai bien fait attention de jamais dépasser cette ligne rouge-là, du pouvoir suprême qui est un pouvoir clérical en Iran, mais... Même dans des choses plus petites, j'ai l'impression que je dois faire très attention. Par exemple, après 3 mois de séjour, j'ai été convoqué par le ministère de la Culture et de la Guidance Islamique, qui est responsable des journalistes étrangers, et puis il voulait parler de mon renouvellement de visa. Alors j'y suis allé un peu comme ça, sans savoir trop ce qui m'attendait, et ils avaient sur la table la traduction complète de mes articles, qui sont parus dans le temps. Donc il y a quelqu'un en Suisse ou en Iran qui lit tout ce que j'ai écrit et qui traduit en persan. Et je ne sais pas comment il traduit, je ne sais pas s'il comprend toutes les nuances que je peux mettre, mais dans cette pile de papier, il y avait pas mal de passages qui étaient marqués au stabilo boss fluo. C'est les phrases qui n'avaient pas plu, et il y avait pas mal. Alors les deux personnes qui étaient mes interlocuteurs m'ont dit qu'ils auraient bien voulu renouveler mon visa pour une longue période, etc., mais que vu que mes articles n'étaient pas très bons, ça leur était difficile. Et j'ai compris que des articles pas très bons, ça voulait dire des articles pas assez positifs.
C'était pas mal positif les tiens quand même. Le problème c'est qu'ils s'attachent beaucoup à des détails. C'est un peuple aussi assez raffiné, assez. C'est vrai que les détails comptent énormément. Et donc le sens général d'un article pouvait être positif, mais que tout d'un coup, si t'as un adjectif mal choisi ou si tu manques de précision dans quelque chose, c'est ça qui leur plaît pas vraiment.
Disons qu'ils ont perçu ces articles comme étant pas assez positifs pour eux, alors qu'à mon avis, un article qui parle de gens libres en Iran, qui disent ce qu'ils pensent et qui parle des problèmes comme ils sont, de la vie quotidienne qui est difficile, de la crise économique et des doutes sur l'avenir, je pense que cet article-là peut être lu de manière positive par un lecteur suisse qui s'intéresse à l'Iran, parce qu'il se dit, ben voilà, dans ce pays, les gens sont libres de parler, les gens font face aux problèmes, et je pense que même pour les investisseurs, c'est une bonne nouvelle de savoir que le pays se pose les vraies questions. plutôt que de vivre dans des sortes de fantasmes idéologiques et de... Mais par exemple, en arrivant, j'ai fait une série, en donnant la parole aux gens, j'ai fait des portraits de gens parce que je ne voulais pas commencer tout de suite en arrivant à faire de grandes analyses de mon cru, puisque je ne me sentais pas encore tout à fait autorisé à le faire vu que je débarquais. Et j'ai voulu faire une série de 5 portraits. Dans ces portraits, j'ai fait attention de balancer un petit peu pour que tout le monde soit un peu représenté. Il y avait un mollah, il y avait un bazariste, un marchand. Ce sont des gens très conservateurs. Ce sont eux qui ont financé la révolution et qui en ont profité le plus. Et puis, il y avait une pianiste, qui est une femme qui a vécu dans une grande famille qui était opposée au Shah et qui a fait la révolution avec enthousiasme, qui a été déçue par la révolution, qui est partie en exil, qui est revenue 10 ans plus tard, qui a dû se battre pour retrouver ses meubles et tout ce qui lui avait été confisqué, et qui était très amère sur le régime. Elle terminait l'entretien en disant qu'elle se sentait dans un pays sous occupation. Et c'est compréhensible à son niveau, parce qu'elle vient d'une société qui avait l'habitude de dominer la situation, d'être dans le haut du panier. Et puis maintenant, le pays est dirigé par des mollahs qui n'ont pas du tout la même mentalité qu'elle. Et au fond, elle devient impuissante dans ce pays. Les repères qu'elle avait, les amis qu'elle avait, tout ça a changé. Et finalement, elle se sent sous occupation parce qu'elle n'est plus à même de vivre la vie comme elle le vivait avant.
Et alors ?
Et cette phrase-là a déclenché de sérieuses critiques au ministère de la Culture et de la Guidance Islamique. Ils m'ont dit que c'était pas du tout correct d'écrire ça, que... Voilà.
Chauffeur de taxi aussi.
Oui, j'ai voulu aussi faire donner la parole à des petites gens, à des chauffeurs de taxi, une cuisinière, etc. Et ça leur plaît pas du tout, parce que le peuple n'est pas très content en ce moment. Il y a vraiment un mécontentement général. Et au fond, les autorités ici préfèrent que j'aille voir des professeurs d'université qui vont me raconter que, vu le cours du pétrole, la situation est difficile, mais qu'elle peut se redresser. Si le baril passe à plus de 15 dollars, alors tout deviendra bien. Et que, vu le dernier crédit de la banque japonaise, machin, ça devrait marcher pour tenir le budget annuel. Ça, c'est un discours qui est convenable. Mais d'aller voir un chauffeur de taxi qui vous dit que tout le monde est content et que dans les taxis, les gens parlent de leurs problèmes, etc., ça, ça passe pas. Ils m'ont dit que mes lecteurs en Suisse méritaient mieux que des chauffeurs de taxi comme interlocuteurs. Ils m'ont dit que c'était des gens qui étaient indignes d'être lus en Suisse. Ils opèrent une censure par la qualité des gens. Et ils m'ont dit que je devrais vraiment améliorer la qualité de mes sources. Alors, c'est un peu vexant parce que j'ai essayé de rendre vivants les articles, j'essaye d'aller voir des gens qui tiennent un langage de tous les jours, qui peuvent être lus et compris par des gens en Suisse à un niveau tout simple.
Ça, c'est bien joli à expliquer, mais comment on fait quand on doit le vivre tous les jours ? En Suisse, je pense que quand on écrit, on n'est jamais assez précis. De toute façon, il n'y a rien à cacher. Ça doit être des fois ennuyeux. Ici, on se retrouve là, avec cette envie, avec cette excitation, avec tout ce qui pourrait se dire, mais on ne peut pas. On doit le ressentir tous les moments de la journée.
Non, mais je suis peut-être un peu cervelé sur ce point de vue-là, mais je suis toujours très enthousiaste et très partant, etc. Je fais des interviews qui sont extrêmement intéressantes et je reviens à la maison avec le sentiment d'avoir vraiment... vécu un petit moment d'histoire avec des gens qui tiennent un discours, qui est vraiment un discours ancré dans le moment, qui sont des gens qui vont changer leur pays. Vraiment, et le problème arrive quand je me retrouve devant l'écran et le clavier qu'il faut écrire l'article et je me rends compte que la moitié de ce qui m'a enthousiasmé lors de l'entretien, je peux pas le mettre.
Non, mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que tu sens pas de limite la journée ici. Tu te sens complètement libre. Les gens parlent librement, tu te promènes complètement librement dans la rue. C'est une ville de 12 millions d'habitants, mais qui fait absolument pas peur. Où t'as aucun risque, les gens sont pas violents, tu te fais pas piquer ton sac, tu te fais pas voler. Donc il y a vraiment jamais de moment d'angoisse dans la journée. Et c'est vrai que c'est au moment où tu, pour Serge, où t'es devant ton ordinateur et que tu dois écrire ton article, que tu te dis mais attends, est-ce que ça je peux le dire comme ça ou pas ? Et c'est vraiment à la fin de la journée que tu te poses la question.
Comment vous expliquez le fait que le régime puisse imposer à une femme étrangère de porter forcément le foulard ? Et puis l'accoutrement islamique, entre guillemets, alors qu'il y a d'autres régimes autoritaires dans le monde, mais qui n'imposent pas aux étrangers les mêmes lois que celles qu'ils imposent à leur population. On a l'impression de deux. Et comment vous expliquez le fait que le régime puisse imposer à une femme étrangère de porter forcément le foulard et puis l'accoutrement islamique, entre guillemets, alors qu'il y a d'autres régimes autoritaires dans le monde, mais qui n'imposent pas aux étrangers les mêmes lois que celles qu'ils imposent à leur population. On a l'impression de devenir iranien, entre guillemets, en rentrant sur le territoire iranien.
Mais ils ont fait une révolution qui était quand même très radicale. Ils ont renversé un régime qui se voulait occidental, qui se voulait ouvert aux étrangers, qui montrait des filles en mini-jupe au bord de la piscine, qui avait des boîtes de nuit, où il y avait une grande liberté de mœurs, surtout qu'il y avait aussi une grande liberté commerciale et qu'il y avait pas mal de fortune. Et les gens riches claquaient leur pognon de manière assez tapageuse. On est passé d'un régime très pro-occidental, où tout ce qui était un peu fou, un peu européen, un petit peu dénudé, un petit peu libertin, était bienvenu. Et ils sont passés à l'extrême opposé. Donc ils ont dit aux Occidentaux, vous venez en Iran, mais vous vous pliez à nos conditions. Et ça, c'est un discours qui est très ancien en Iran, parce qu'il y a eu du pétrole en Iran. Les étrangers sont venus au début du siècle. Dans les années 20, ils ont fondé des compagnies qui exploitaient le pétrole iranien à leur seul profit et qui payaient quelques impôts sous forme de pots de vin à des potentats locaux. Mais finalement, les étrangers se sont servis et ils ont fait en Iran ce qu'ils voulaient. Il y a des périodes dans l'histoire de l'Iran où les ministres étaient tous étrangers. Il y avait le Shah qui était un Iranien, bon ça on peut pas le changer. Et puis il trouvait que c'était un Anglais qui ferait le mieux l'affaire pour le ministère des Finances, parce que les Anglais, ma foi, s'y connaissent avec la finance, alors il mettait un Anglais. Il trouvait qu'un Russe était bien au ministère de la guerre, parce que les Russes ont un tempérament combatif. Il voulait un Belge aux douanes, je ne sais pas pourquoi, il y avait un Belge qui était au ministère des douanes. Et donc il y a un sentiment des Iraniens d'avoir toujours été privés d'eux-mêmes et privés de pouvoir se régir eux-mêmes. Alors je pense que c'était un sursaut d'orgueil, un sursaut de fierté de dire aux étrangers « Maintenant, vous venez en Iran et c'est nous qui faisons les règles du jeu ». Il y a une grande tentation dans ce régime d'autarcie. C'est un régime qui aurait bien voulu ne pouvoir vivre que de lui-même, ne rien importer. Bon, ils ont du pétrole, il faut l'exporter, mais ne rien importer, ne pas faire venir d'étrangers pour développer leur technologie. Et finalement, ils ont échoué là-dessus parce que on ne peut pas vivre tout seul, on ne peut pas se couper du monde.
Et oui, en Iran, l'image est plus importante que les faits. Par exemple, on nous confisque une bouteille de whisky à la douane tout en nous conseillant de goûter au petit vin iranien.
Autre exemple, on s'est retrouvé à faire des démarches car étant resté seulement 5 jours à Téhéran, on a quand même dû passer 2 jours dans les administrations pour avoir une prolongation de visa de 1 jour. Alors on avait des photographies passeport de Julie faites à la gare de Lausanne et bien sûr sur ces photos, eh bien Julie ne portait pas de foulard islamique. Donc on s'est retrouvé dans cette administration, j'étais là en face du capitaine de la police, il y avait les armes mises au mur, les armes révolutionnaires, et lui a regardé les photos attentivement sous tous les côtés et il a pris son gros marqueur sorti de son tiroir, de son bureau en bois, et il a noirci toute la photo passeport, excepté le frêle et petit visage de Julie, afin de réintégrer l'ordre islamique.
Autre histoire d'uniforme islamique, alors que je me promenais avec Leïla dans les rues de Téhéran, elle m'a dit « Bien, écoute, tu veux pas m'accompagner faire les boutiques ?» Donc, comme une copine, je l'ai accompagnée faire les boutiques. Donc, on est rentré dans une galerie très jolie avec plein de petits magasins. Et puis là, à mon grand étonnement, dans la vitrine, je m'attendais à voir des petits chemisiers, des petites robes ou je sais pas quoi, des soutiens-gorge, des culottes. Eh bien, pas du tout. Dans les magasins iraniens, il n'y a que des manteaux islamiques, tous plus noirs les uns que les autres, parfois marron, parfois bleu marine. Et toutes les femmes sont là, elles vont faire du shopping pour s'acheter ces manteaux qui leur donnent une silhouette informe, pas du tout féminine.
Mais on peut se déshabiller quand même pour enfiler ces manteaux.
Et justement, chose très curieuse, qui m'a beaucoup intriguée en tout cas, il y avait un autocollant sur ce magasin avec une femme avec un foulard. Et puis il y avait marqué en dessous, il est interdit d'enlever son foulard dans ce magasin. Donc ça veut dire que quand on essaie un vêtement à Téhéran, eh bien on reste tout habillé, même avec un foulard sur la tête.
بچگی دلش میخواست معروف بشه نگاه ها همش دنبال اون نکاری و نباری و شب زنده داری به خوابه تا آفتاب لبه بوم خواننده شدن للم و مدد خوندن میگن تو ممونی یا خوب میدونه کجا باید بره دم کی و ببینه راه و چاهشو نمیدونه فقط میخواد خواننده شه مثل همه اونا پول دار بشه بین مرد و زن محبوب بشه تا زنده دست بزنید واسه خواننده تاپ هیپ هاپ هیپ هاپ دست
دست بزنید واسه خواننده تاپ هیپ هاپ هیپ هاپ 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 دست بزنید واسه خواننده تاپ میگن واسه معروف شدن پارتی بازی یا پول میخواد
بله بله حتماً میخواد
میگن واسه خوانندگی سواد موسیقی میخواد
نه نه هرگز نمیخواد
آخ نمیتونه سازی بنوازه آهنگ و شعر بسازه باید بله بله قربان کنه باید هرچی گفتن بکنه اون خانوما که خواننده میشن وای 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 ویلا فقط میخواد خواننده شه مثل همه اونا پول دار بشه بین مرد و زن محبوب بشه تا زنده است بخونه هیپ هاپ هیپ هاپ هاپ دست بزنید واسه خواننده تاپ هیپ هاپ هیپ هاپ هاپ دست بزنید واسه خواننده تاپ بزنید واسه خواننده تاپ هیپ هاپ هیپ هاپ 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 دست بزنید واسه خواننده تاپ از نجابت کردن از خانواده گفتن سر برنامه آمدن دخترها رو تور کردن خواننده ملی شدن سمبل آن و این شدن در خلوت نشستن هی کشیدن و گیج شدن میگه به همه ازدواج نکرده یارو هم دمی نداره کس نگفت این تاره که دنیا این چند سال چی کار میکرده سن و سالشو هرگز نمیگه آخ که مردم میگن پیره فقط میخواد خواننده شه مثل همه اونا پول داره بشه بین مرد و زن محبوب بشه تا زنده است بخونه هیپ هاپ هیپ هاپ هاپ دست بزنید واسه خواننده تاپ هیپ هاپ هیپ هاپ هاپ دست بزنید واسه خواننده تاپ هیپ هاپ هیپ هاپ هاپ دست بزنید واسه خواننده تاپ هیپ هاپ هیپ هاپ 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 دست بزنید واسه خواننده تاپ
Radio Suisse Romande, la première, nous sommes à Téhéran, Fred et Julie, pour vous servir.
On est rentré chez des gens qu'on ne connaissait pas.
Et non.
Et on a entendu de la musique sur leur palier et on a sorti notre micro, on a dit « Excusez-nous, est-ce qu'on pourrait pas juste enregistrer un petit peu la musique ?» Ils nous ont dit « On vous passe la cassette ».
Ils ont dit « Attendez, alors ils sont vite recachés ». Il y a les femmes qui gloussaient, les jeunes filles qui étaient habillées, qui allaient vite mettre leur foulard et elles sont revenues nous tendant la cassette audio.
Mais on a insisté en fait, ce qui nous intéressait c'était de voir dedans.
Comment se passe une fête privée chez des gens ?
Et finalement, à force, avec le micro, on a pu rentrer. Voilà ce qu'on entend.
On a embarqué avec nous nos traducteurs et émissaires Serge et Marie-Laure et on s'est baladé dans leur appartement.
Pour moi, c'est un lieu très traditionnel, avec les rideaux fermés, évidemment, avec des stucs partout, des lustres, beaucoup de dorures, avec des tableaux assez étranges pour l'Iran, quand même. Il y a un tableau qui ressemble un peu à Heidi et Peter. Avec des tableaux un peu genre Louis XIV ou avec des hautes coiffures comme ça. Évidemment une télévision high-tech et puis une chaîne stéréo multilumière qui clignote dans tous les sens parce que ça c'est le nec plus ultra. Avec de la musique iranienne. Dans quelques instants, à mon avis, la fille va danser. Une des filles vont danser, quoi. Alors effectivement, les filles sont d'un côté et les hommes sont de l'autre côté. Ils se parlent quand même, évidemment. Les hommes sont assis, en train de fumer la pipe à eau, de grignoter des amandes et des pistaches. La seule fille qui est parmi les hommes, c'est la petite fille qui doit avoir 12 ans. Et puis, sinon... Les filles sont de l'autre côté de la pièce. Alors c'est marrant parce que je les croise des fois, elles n'ont pas de foulard. Et là, ce soir, je pense que puisqu'on est là, puisque surtout Fred est là, un homme étranger a...
à la famille, donc elles doivent porter le foulard. Alors elles sont quand même en jeans avec des t-shirts, même à manches courtes, ce qui est rare. Normalement, les bras des femmes doivent être couverts et elles sont avec le foulard.
Et puis on peut dire aussi qu'elles gloussent dans les coins, qu'elles se remettent le foulard quatre fois en place et qu'elles le mettent très en arrière aussi. Donc il n'arrive pas sur le front ou en dessous des sourcils comme il devrait être, mais il est parfois pratiquement bien en dessous des oreilles. De façon peut-être un peu provocante.
Oui, je pense qu'effectivement maintenant à Téhéran, on se permet des choses qu'on ne se permet pas forcément dans le reste de l'Iran. Et puis de toute façon, ce que vous répondront les gens en général, c'est qu'il suffit d'être couverte. Donc c'est clair qu'au moment où on réajuste le foulard, on se découvre un peu, on peut voir si les cheveux sont longs ou sont courts. Tu réajustes ton foulard et oui, elles en jouent effectivement du foulard. Mais il faut être couvert.
Ok, donc nous sommes dans la cuisine et ils ont sorti un narguilé. Alors, d'abord, ils ont lavé, ils ont mis de l'eau dans le récipient du bar. Dans ce récipient arrive deux tuyaux, celui de l'air extérieur par lequel on va tirer. Donc l'extrémité arrive bien sûr en dehors de l'eau, qui va donc attirer la fumée de l'autre tuyau qui est plongé dans l'eau. Entre ce tuyau est posé un entonnoir sur lequel est posée une petite pierre avec un tabac à la fraise très étrange. Donc très très odorant, qui conserve au congélateur. Sur ce tabac à la fraise, une feuille d'alu qui est méticuleusement déposée sur l'entonnoir. Et sur la feuille d'alu, ils ont préparé des briquettes, des petites briquettes de charbon qu'ils ont posées sur la plaque à gaz pour la faire combustionner. Et ils sont en train de percer la feuille en aluminium. Donc c'est sur cette feuille qu'ils vont poser ensuite le bout de charbon qui est maintenant incandescent, vu qu'il est posé sur le gaz. Ils le retirent avec les doigts, voilà, clac. Et le pose sur la feuille d'alu. Il souffle un peu dessus.
Zorol, Akish. Parmi un. Yes. Ok.
Et voilà, maintenant la pipe est prête. And what is the name of this?
Taelyung.
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 Kelyun.
Kelyun. Kelyun, yes.
Okay, no nargile.
Oh.
Kelyun.
Yes, yes.
Marie-Laure, qu'est-ce que ça fait si quelqu'un se met à danser? Qu'est-ce que ça représente?
Oh, la danse, je pense qu'elle a toujours fait partie de la culture iranienne. Tu peux pas interdire aux gens de danser. Alors, c'est interdit de danser dans la rue et à la vue de tout le monde. Mais dans les maisons, ça danse, on écoute la musique, ça fume la pipe à eau, ça rigole. C'est très, très vivant à l'intérieur des maisons. Et je pense que leur culture et leur civilisation, leurs traditions sont ancestrales, sont vraiment très, très vieilles. Et on peut pas éradiquer ça en 20 ans de révolution de toute façon. Donc tout revient à la surface et les gens dansent et ils ont une joie de vivre et c'est magnifique parce que quand on les voit danser, je trouve que c'est des danses très, très sensuelles, aussi bien du point de vue des hommes que des femmes, mais c'est vraiment très chouette.
Et dans les maisons, il n'y a jamais de problème
Si la musique est un peu trop forte et si elle est occidentale, ça arrive que des forces de l'ordre débarquent à la maison et embarquent au poste des hommes et des femmes. En général, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ça fait 3 mois qu'on est ici et je n'ai jamais rien vu de tel. Et pourtant, j'ai déjà participé à plein de fêtes. Mais on m'a raconté des tas d'histoires, comme quoi les forces de l'ordre ont débarqué. Enfin, c'est une culture très vivante. Hein. Les Iraniens, on ne pourra jamais les castrer, je pense.
Nous sommes là toujours dans cet appartement très étrange où nous avons débarqué et où nous avons été invités à manger et où il y a une ambiance très spéciale avec tous les interdits qui sont bravés délicatement tout en regardant par la fenêtre très régulièrement s'il n'y a personne qui va venir. Qu'est-ce qu'on voit à la télévision? Sur quel genre de musique?
En ce moment, en fait, ils ont changé la parabole de place pour pouvoir capter les chaînes turques. Donc en ce moment, alors qu'on est dans une petite famille en fait, de tradition des bazaris, donc c'est-à-dire ceux qui tiennent les commerces en Iran, c'est donc des gens normalement très traditionnels parce que très corporatistes, donc c'est difficile de rentrer. Donc c'est assez drôle de voir le contraste justement où toutes les femmes ont gardé leur foulard et même les mères en fait sont entièrement voilées dans le sens où elles ont le manteau islamique ou le chador. Et par contre à la télévision on est en train de voir soit Michael Jackson en train de faire des mimiques très sensuelles avec la bouche, soit des jeunes filles totalement décolletées, mini-jupes par les fesses et au talon. Ce contraste totalement avec ce salon et cette immense famille très traditionnelle.
Alors, combien d'interdits sont bravés ce soir ?
Plusieurs. D'abord, celui d'accueillir, je pense, des étrangers chez soi. Ensuite, d'écouter de la musique occidentale. Celui d'abord d'écouter de la musique tout court. De danser entre hommes et femmes. De chanter. Et effectivement, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sonne à la porte, personne ne va ouvrir directement. On vérifie par la fenêtre pour savoir qui c'est qui a frappé. Et régulièrement, le père, le bazari, donc l'homme de commerce, qui, si quand il sera demain à son échoppe, en fait, sera peut-être quelqu'un de très très traditionnel, c'est-à-dire aura le portrait de l'imam Khomeini derrière son comptoir. Il sera habillé de pied en cap. Certainement, il bannira en fait toutes les outrances faites à la religion. Et ce soir, il accueille des étrangers chez lui et il accepte qu'on écoute de la musique techno. Et il accepte qu'on n'ait pas de foulard sur la tête.
On a vu d'abord toute la soirée des images du mariage. Donc c'était très étrange parce que donc on a vu deux personnes qui sont là montrer leurs images de mariage, dont une scène où ils dansaient entre hommes et femmes, justement, surtout femmes, dans un public de femmes. Et à un moment donné, on a vu un homme danser avec eux. Mais là, à chaque fois, le plus grand des fils a mis en avance rapide pour être sûr qu'on ne voit pas, pour ne pas nous choquer. Et alors que par la suite, il montre là des images où vraiment les femmes sont en bikini.
La différence, c'est que c'est pas la famille.
L'art de la fête en Iran, c'est tout de même la grande découverte de cette étape. On va arrêter là de danser, on va ranger la grande nappe étalée au milieu du salon, nous avons finalement été invités. Eh bien oui, c'est sur le palier de porte que cette visite est improvisée, il est maintenant tard dans la nuit, et demain, il y a plein d'autres choses à voir et à entendre.
On a entendu Peter Gabriel, Ekova, Silhouette et Sandy.
Cette émission est réalisée par Jules Gilbert et Frédéric Chauffa. Le grand chef de la technique, eh bien, c'est notre cher complice Patrick Doram. Et la programmation, c'est Carmen Algarada. Fred et Julie, sur la première, on vous retrouve
à Téhéran
samedi prochain à 16h, tous les samedis, tous les dimanches, de 16 à 17h.
Radio Suisse Romande, la première, Fred et Julie, un détour du côté de la route.
Radio Suisse Romande, la première, il est 17h.